Nous sommes Perek Dalet, Mishna Kaf, Elisha ben Avuya Omer. Halomed Yelet le Mahu Dome. Elisha ben Avuya Omer, Halomed Yelet le Mahu Dome. Quelqu'un qui étudie quand il est enfant, quand il est jeune, un enfant, à quoi il ressemble. Le Dio, Ketuval Niar Hadash, a de l'encre qui est écrit sur un papier qui est neuf. Niyar des papiers. À l'époque de la Gemara, existait déjà des papiers. Comment ils faisaient les papiers? Le papyrus, avec des herbes, des roseaux écrasés, ça existait déjà. Et on écrit avec de l'encre. Et si ce papyrus, il est neuf, et on écrit avec de l'encre dessus, alors c'est une bonne chose. Alomet Zaken le Maoudomé, ce qui étudie quand il est vieux, à quoi il ressemble, le Dio Ketuva, de l'encre qui est écrit, Aneyar Mahouk, du papier qui est Mahouk, effacé. C'est-à-dire quoi effacé? L'encre, quand le papier il est neuf, l'encre rentre profondément. Le fait que ça rentre profondément, donc ça reste longtemps. Et si la première couche de l'encre, elle va s'évaporer, elle va s'effacer parce qu'elle est à l'air et l'air affaiblit l'encre qui est à l'extérieur, mais l'encre elle est en dessous aussi. Donc il y a la nouvelle couche de l'encre qui va sortir. L'encre qui est derrière, entrée profondément, elle soutient toute cette encre qui est à l'extérieur. Donc on peut bien le lire, et même si ça... L'air, elle va enlever un petit peu, il reste ce qui est en dessous. Ça veut dire le mémoire de l'homme, ce qu'on étudie quand on est jeune. Alors, comme les neurones dans le cerveau, le mémoire, il est encore bien propre, ce qu'on apprend rentre profondément. Et si après, peut-être on va oublier un petit peu parce que les événements de la vie font qu'on pense à autre chose, et on pense plus tellement à ce qu'on a étudié, mais ce qu'on a étudié en vérité est profondément dedans. Et dès qu'on met la tête dessus, on peut lire les lettres. Ce qu'on a emmagasiné quand on est petit, ça revient facilement. Mais quand on a du papier qui est effacé, quand tu effaces, après tu écris une deuxième fois dessus. Alors quand tu écris déjà une deuxième fois dessus, la première couche de papier est abîmé. Donc l'encre, quand tu vas écrire, elle ne rentre pas profondément. Elle reste sur la surface. Et donc l'air qui va effacer cette encre, qui va affaiblir cette encre, il n'y a pas d'encre derrière pour le soutenir. Donc le jour que tu voudrais te rappeler ce que tu as étudié, où tu vas te rappeler? Donc un homme, il est jeune. Même s'il oublie, il remet la tête dedans, ça revient. Les autres études qu'on fait quand on est âgé, eh ben, si tu penses à autre chose, et doucement, doucement, ça s'effrite, tu ne sais plus où trouver, tu ne trouves pas où tu as posé, ça n'est pas profondément dedans. Donc, qu'est-ce qu'Elisha ben Avuya veut nous dire? Il veut exhorter les parents à enseigner leurs enfants quand ils sont jeunes. C'est une extraordinaire chose extraordinaire, la jeunesse, d'étudier quand on est jeune. Alors, est-ce qu'Elisha ben Avuya, il a accompli ça? Sûrement. Son père l'a enseigné, lui a enseigné la Torah quand il est encore jeune. Il y a toute une histoire dans la Gemara que la Gemara nous raconte que ce fameux Avuya, Elisha ben Avuya, c'est un homme important à Yerushalayim, un homme riche, un homme qui aidait au Chachamim. Pas financièrement, politiquement, il aidait beaucoup à la communauté juive pour Ofen Klali. C'est un homme qui faisait beaucoup de bonnes choses à Yerushalayim. Et le jour que son fils est né, ce fameux Elisha est né, il a invité beaucoup de monde. Ils sont venus beaucoup de riches, beaucoup de politiques, beaucoup de gens importants à Yerushalayim sont venus, mais les Chachamim aussi, parce que les Chachamim savaient aussi apprécier cet homme. Alors, il a une brite, mais il a une grande fête, très, très spéciale, cette fête-là. Et ça a duré longtemps. Je n'aime pas qu'est-ce qui durait longtemps. Est-ce que c'était le repas? Est-ce que c'est les préparatifs? Est-ce que c'est les chansons? Est-ce que c'est les embrassades? De rencontrer tous les gens, tous les politique et tous les gens qui sont venus, Salam alaykoum, merci beaucoup. Bah, c'est un mila qui a duré. Et la Gemara nous raconte que les Chachamim, il y avait Rabbi Eliezer, il y avait Rabbi Yeshua, il y avait Rabbi Akiva, les plus grands Chachamim, ils étaient présents. Ils ont dit, on ne va pas perdre notre temps avec pendant que tous les gens ici disent bonjour, ils se préparent. Avant la bride ou après la bride, je ne sais pas. Alors, Inhubididou, Anan Bedidan, eux, ils s'occupent de leurs affaires. Nous, on s'occupe de nos affaires. Nos affaires, c'est l'étude. Et ils avaient trouvé une chambre, on leur a attribué une chambre et ils se sont mis à étudier. Et le marqué qu'ils ont étudié, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était une étude phénoménale. Ils ont fait du Chumash, ils ont fait le Tanakh, ils ont fait les Mishnayot, ils ont fait la Gemara, le Pilpul, les choses les plus profondes sont mis dedans jusqu'à un moment, il y a un feu qui les a entourés. Feu les a entourés, les gens ils sont venus chez le père des Elisha, c'est un Vouya, ils ont dit il y a un feu ici dans votre palais. Et il a couru et il a vu le feu. Il a dit, les rabbins, vous venez de me mettre le feu dans mon palais. Alors ils ont dit, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est un feu qui fait du mal à personne. C'est quoi comme feu? C'est le feu du Har Sinaï. Hachem, il a donné la Torah Har Sinaï. Har Sinaï, Hachan Kulo, c'est du feu. Tout le Har Sinaï, il brûlait avec le feu. Chez nous aussi, pourquoi? Parce que notre étude, il est aujourd'hui tellement exceptionnel que quoi? Ils ont fait des grands chidoshim ce jour. Quel est le maître le pshat? On ne nous dit pas sur d'autres rencontres en Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, que c'était un tel événement. Pourquoi pendant la Brit Mila de ce garçon? C'est-à-dire que ce garçon, c'était une grande neshama. Et la Brit Mila de ce garçon, c'était un moment Sha'at Ratzon du ciel. Et l'étude dans cette maison, quand il reste cet homme, il était très extraordinaire qu'Hachem lui a donné une telle neshama. Avec l'étude de Harim dans sa maison, ça a déclenché un moment exceptionnel. Alors, quand le père il a vu ça, quoi, la Torah est tellement grande que le feu vient du ciel autour de Hachamim. Il a dit, si c'est comme ça, eh bien, si ce garçon-là, il sera en bonne santé, je lui donnerai une éducation de Torah. Je vais envoyer ce fils chez vous à la yeshiva. Et donc, tout de suite, dès que l'enfant était capable, il est parti à la yeshiva étudier. Et Kaniré, c'était effectivement un génie. Il a étudié chez les Chachaïm, c'est un génie de génie, un des grands, au point que quand il voulait faire une expérience mystique de Ruach HaKodesh, alors il y avait quatre Chachaïm. Il était choisi pour faire ça, Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azaï et Elisha Ben Avouya. C'est parmi les plus grands. Et après, il est arrivé un accident, malheureusement, et cet homme-là, il a tourné. Mais dans sa jeunesse, il était un Gaon Olam. Et quand il a dit ça, étudier quand on est jeune, il parlait bien sûr de son expérience. Il a vu que lui, il a étudié tout jeune et ça a été un merveille. Malgré après qu'il est devenu Racha, ils ont quand même cité son Mahamar. Parce que ça, c'est de la Torah. Il a enseigné ça qu'ils ont été encore bien. C'est la vraie Torah qu'il a dit. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Ishkvar Habab Liomer. Alomed Minaketanim le Mahoudomé. Celui qui étudie Minaketanim, des petits, des jeunes. Il étudie la Torah chez des jeunes Chachamim. Le Mahoudomé. À qui il ressemble? Le Ochel Anavim Kehot. Un homme qui mange des raisins Kehot, qui sont aigres, qui ne sont pas mûrs. Ils n'ont pas assez mûri. Un homme, il étudie au début de son étude. Tout ce qu'il comprend, ce n'est pas encore mûr. C'est encore aigre. Tu étudies chez lui, il y a un goût aigre dedans. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Sa chokhma ne tourne pas rond. Veshote Yain Migito. Ou quelqu'un qui boit du vin Migito proche de ce qu'on a écrasé les raisins. Alors qu'on écrase les raisins, alors au début, ça devient de l'alcool. Alors quand ça devient de l'alcool, dans la première époque, il y a des gaz carboniques. Et pendant que le vin il est en train de fermenter et on boit ce vin, il est pas du tout bien. Et même quand il a terminé de fermenter, si on le boit tout de suite, il y a la lie dedans. Le liquide et la lie est mélangé. Quand tu bois la lie aussi. Il y a tout le temps quelque chose de pas bien. Et ceux qui étudient des personnes âgées, les chachamim qui sont âgés, à quoi ça ressemble? Ceux qui mangent des raisins qui sont mûrs. Manger des raisins mûrs, alors ils sont sucrés. Alors un chacham, il a déjà réfléchi bien, il s'est déjà bien donné un goût, il y a un goût sucré dans ce qu'il dit. Il boit du vin qui est âgé. Le fait que c'est âgé, la lie est déjà tombée en bas du tonneau. Et le vin, il est pur. Les Chachamim qui sont âgés, ils ont déjà enlevé les scories et les erreurs, leur expérience de vie et leur étendue de leur étude. Ils ont fait que quoi? Qu'ils trouvent dans la Torah, il y a ce qu'au début, on a plein de questions. Il y a des choses aigres, il y a des questions qu'on n'a pas répondues, il y a des fausses compréhensions. Et la jeunesse donne de l'excitation et on croit qu'on sait. En vérité, il y a quelque chose qui cloche. Eh ben, donc, si tu étudies chez un jeune, faut pas tout ce qu'il dit prendre pour de l'argent comptant. Il y a ici des erreurs dedans. Et plus que la personne y grandit, plus il élimine les erreurs. Et donc, la lie va au fond du tonneau. Et ça, c'est du vieux vin. Ça, c'est de la bonne qualité. Rabbi Omer. Rebbe, il dit, Altistakan bekalkan. Il ne faut pas regarder sur la cruche. Mais il faut regarder ce qui est dans la cruche. Yeshkan kan chadash, des fois, il y a une cruche qui est neuf. Maleyeshan, mais on a versé dedans du vin qui est vieux. Veyashan, des fois, il y a une cruche qui est vieille. Shafilu chadash en bo. Il n'y a pas de vin dedans, mais ni du vieux, ni du neuf. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Rabbi? Rabbi, il a dit, ce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il dit, qu'étudier chez un jeune, il y a des scories dedans, il y a la lie dedans, c'est aigre, il faut aller chez un vieux, ce n'est pas une règle qui est toujours. C'est dans la majorité des cas, il est d'accord, Rabbi. Mais il y a des exceptions. Il vient te dire, sache qu'il y a des exceptions. Yesh, il dit, ne regarde pas Bekankan. Ce n'est pas forcément la cruche qui définit la valeur du vin. Normalement, une cruche qui est neuve, il y a du vin neuf. Une cruche qui est vieille, il y a du vieux vin dedans. Oui, normalement, c'est comme ça, mais pas toujours. Des fois, on a du vieux vin, on le verse dans une cruche qui est neuve. C'est-à-dire, des fois, il y a un jeune chacham, mais qu'on lui a versé dedans du vieux yachan. Des fois, il y a un jeune qu'il a étudié chez un vieux rave, chez un vieux chacham, et ce vieux chacham, il lui a mis dedans tout de suite la Torah d'un homme vieux. Et le jeune, il a capté. Il a tout de suite, au début, il a reçu déjà du vieux vin, il n'y a pas du lit dedans. Et ça veut dire, si le chacham, doucement, doucement, il monte dans son étude, effectivement, il va passer le stade de gaz carbonique, de fermentation, la lie mélangée, effectivement. Mais on peut verser dans un jeune chacham, il peut avoir étudié la vieille Torah, la Torah qui est déjà pleine de sagesse, où lui-même, il capte tout de suite ça. Ça devient, ça rentre chez lui, ça se purifie tout de suite. Mais Yachan, des fois, il y a une vieille cruche. Mais il n'y a pas de vin dedans. Il y a des personnes qui sont âgées, mais n'ont pas de chokhma. Ce n'est pas forcément parce qu'un homme, il est vieux. Forcément, il est chacham. Il peut, il a fait des expériences de la vie, mais des fois, ça ne marche pas. Des fois, il n'y a ni de vieux vin dedans, et il n'y a même pas de neuf dedans. Rabbi Eliezer a kapar omer, hakina, vahata'ava, vahakavod, motzin et adam min haolam. Akina, la jalousie, va ta'ava et le désir vers le plaisir de ce monde, va kavod et la recherche de l'honneur, Motzin et Adam min haolam, ça fait sortir l'homme du monde. De quel monde? De ce monde et de l'autre monde. L'homme, il souffre dans ce monde, il ne profite pas bien. Sa vie n'est pas une vie agréable. Kina, il est mécané que l'autre ait la plus, et lui, il est frustré. Une vie d'un homme frustré qui a le sentiment qu'il n'a pas reçu ce qu'il mérite. Il aurait voulu avoir une autre vie, et sa vie, il n'est pas content de sa vie. Le corps qu'il a reçu, l'argent qu'il a reçu, la famille qu'il a reçue, le destin qu'il a reçu, il se compare à d'autres. Il y a qui a des meilleures familles, il y a des familles plus riches, il y a plus honorables, il y a des plus forts, plus intelligents. Il voit qu'il y a des gens qui ont plus que lui. Et lui, ça lui fait mal. Il est frustré de ça. Il souffre de ça. Eh bien, ça le fait sortir du monde. Il n'a pas une vie agréable dans ce monde. Et ça va l'empêcher aussi d'arriver dans l'autre monde. Parce qu'il ne va pas s'occuper de Torah au Mitzvot. Parce qu'il va essayer de courir derrière ce qu'il imagine qui lui manque. Il n'est pas content avec son dessin. Il n'est pas Mekabel Yisurim Ba'ahava. Il n'est pas, au début, on a vu Eizu Ashir, Asamer Bechelko. C'est quoi un homme riche? Ce qui se réjouit, ce qui est content, c'est que heureux avec ce qu'on lui a donné. Lui, il est justement, il n'est pas heureux. Donc, comme il n'est pas heureux, maintenant, il cherche lui son bonheur. Donc, il court derrière les choses que les autres, ils ont. Il court, il veut être riche comme l'autre. Il veut être un fort comme l'autre. Il court derrière quelque chose. Donc, il rate la vie dans ce monde, le bonheur de ce monde. Et il rate l'autre monde aussi, parce qu'à la place de faire Torah Mitzvot, sa tête est ailleurs. Tava, le désir pour les plaisirs. Ce qui est pris dans des plaisirs, dans la recherche du plaisir, ça lui prendra la tête, ça lui prend son argent, ça lui prend son temps, ça lui prend sa carrière, ça lui prend sa famille, ça lui prend le temps de son étude, le temps de Kiyom HaMitzvot. Tout ça, il n'a pas le temps parce qu'il court derrière les désirs, la kavod, ou ceux qui courent derrière la kavod. Il veut que les gens le respectent. Il court pour que les gens le respectent, mais pourquoi il ne me respecte pas assez? Il croit qu'il doit faire ça, il doit faire ça. Mériter, il ne doit pas courir derrière la kavod. L'homme, il doit faire ce qu'il doit faire, et le kavod, il viendra. Si tu mérites, le kavod viendra. Et s'il ne viendra pas, il ne viendra pas. Si tu ne mérites pas le kavod, peut-être Hachem pense que c'est mieux que tu n'as pas de kavod. Si tu devais avoir de kavod, le kavod, il vient. Il ne faut pas que tu cours derrière ces choses. Motzin et Adam in haolam. On continue la prochaine Mishnah. Hu haya omer. Lui, il disait. Qui c'est? Qui est-ce qui parle? Rabbi Elazar HaKappar. Qui c'est Rabbi Elazar HaKappar? C'est un copain de Rabbi. C'est à l'époque de Rabbi. Ou Ayomer, lui il disait, Haïlodim Lamut, ceux qui sont nés sont destinés à mourir. Vahameitim, et ceux qui sont morts, les Chayot, ils sont destinés à revivre. Yoratriotemitim. Vahachayim, et ceux qui vivront après Triatemitim, les donnent. Il y aura le jugement. Yoratriotemitim, il y a un jugement. Après la mort aussi, un jugement. Il y a plusieurs jugements. Quand l'homme est d'abord jugé chaque Rosh Hashanah, son Yom Kippour. Mais après, on est jugé le jour de la mort, quand on meurt, il y a un jugement. Mais ça, c'est un jugement temporaire. On prend tous les mitzvot, on prend les averot, on décide est-ce qu'il a Gan Eden, est-ce qu'il a Gehinom, mais ce sont des choses temporaires. Ça, c'est entre-temps. Les Olam HaNeshamot, ça, c'est le Neshama sans le corps. C'est entre-temps, jusqu'il arrive plus tard le triatamitim, la résurrection des morts. Quand il y a la résurrection des morts, tout le monde y se lève et il y a le jugement, le Yom Adina Gadol. Et les tzadikim sont à ce moment-là inscrits le Chai Olam Abba. Ce Chai Olam Abba, il y a Machloket si c'est le Olam Abba triatamitim d'abord avec le corps et après le Chai Olam Abba si c'est avec le corps ou sans le corps. Ça, c'est l'échelle Ramban. En tout cas, à ce moment-là, les tzadikim, ils ont Olam Haba, et les Rechaim, ils disparaissent. Donc ça, c'est le jugement, le grand jugement à Triatimétime. Et pourquoi il faut un nouveau jugement? Mais si chaque homme-là, il est jugé après la mort, pourquoi il y a plus tard un deuxième jugement? C'est parce qu'entre la mort de l'homme et la Triatimétime, il se passe du temps. Et ce temps, ce qui se passe, change, peut changer le jugement pour lui. Pourquoi? Parce que quand un homme, il fait des mitzvot, et il influence les autres de faire des mitzvot. Même si l'homme, il a quitté le monde, si les autres, ils continuent à faire des mitzvot, lui, il a une partie. Moshe Zaha, Vezika, comme on verra après dans la Mishnah. On ne mezaket Donc, l'autre qui s'est laissé influencer fait des mitzvot, lui, il a un pourcentage dedans. Il a investi. Un homme, il a investi dans une entreprise. Alors, son argent travaille. Si l'entreprise devient riche, son action monte. Nimtsa que toutes les mitzvot que l'homme il a fait dans sa vie, avec lesquelles il a influencé des autres, après que l'homme il est mort, le compteur continue. Des millions de mitzvot continuent sur son compteur. Et quand il y a Triatimétime, le compteur s'arrête. Quand le compteur il s'arrête, on regarde combien de mitzvot il a maintenant. Ainsi le contraire. Un rachat qui influence avec ses actions que les autres deviennent rachaïm. Tous les avérotes que les autres y font, à cause de ça, indirectement, il a un pourcentage dedans. Donc, le compteur des avérotes continue. Donc, après la vie, quand l'homme quitte le monde, on juge où est le compteur, il est maintenant. Les mitzvot, les avérotes, ils sont jugés, voilà, il est maintenant. C'est ça qui lui donne maintenant, tu vas au Gan Eden ou tu vas au Gehinnom. Triatimétime, on tient compte de toutes les conséquences de ce que l'homme il a fait. Et pas seulement ça, aussi des souffrances. Si après la vie de l'homme, l'homme est au Gehinnom, il a souffert, il est sorti du Gehinnom. Donc au jour Yom Hadin HaGadol, on compte les souffrances. Il a déjà eu des souffrances au Gehinnom, donc lui enlève des avérotes. Donc un homme, après la vie, il peut encore être un rachat, jugé rachat, mais déjà Triatimétim, il est déjà tzaddik parce qu'il a souffert. Alors il y a le Gehinnom, il y a Kafakela et d'autres choses. Où il revient en Gilgoul, après la vie, on compte le mitzvot Averot, et Hachem peut décider, bon, je te donne une deuxième chance, tu reviens en Gilgoul. Il peut venir en Gilgoul dans un homme ou dans autre chose. Alors, il y a toutes sortes de procédés qu'Hachem, il veut sauver, même le rachat qui meurt avec plus d'Averot, Hachem, il veut le sauver de la perte. Donc, il donne des possibilités avec venir en Gilgoul ou d'autres procédés. Jusqu'à peut-être il peut le récupérer. Donc, au Yom Hadin HaGadol, il faut encore une fois compter maintenant tous les compteurs, ils marchent entre-temps et après il sera jugé. Donc, ça, c'est ce que la Mishnah dit. Hayilodim, ceux qui sont nés, la mout, sont destinés à un jour, ils sont obligés de mourir. Vahametim, une fois que les gens y sont morts, la hachayot, il se passe des choses après la mort, le Gan Eden ou le contraire, il se passe des choses. L'achayot qui prépare l'homme pour être revivre au triatimitim. Vachayim, et ceux qui sont, après, ils commencent à vivre, l'idon, après le grand jour de Yom Hadin HaGadol pour juger. Et ces trois choses-là, l'Eida, le Hodiya ou l'Hivada. L'Eida, l'homme, il faut le savoir, il faut l'apprendre, l'Eida, il faut apprendre ces choses. Le Hodia, il faut enseigner ces choses. Ou les Hivada, il faut que l'homme y comprend de lui-même, chez où qu'elle, que Dieu, c'est le Dieu. Ou Hayotzer, c'est lui le créateur. Ou Habouré, créateur, et Hayotzer, et Habouré, ces deux expressions, Bouré, Yotzer. Ou Hamevin, et lui il comprend. Ou Hadayan, et Dieu, c'est le juge. Ou Ed, il est le témoin. Ou Baldin, lui, c'est celui qui accusera. Ou Atin, la donne. Et lui, dans le futur, il va juger. Mais Baruchou, il est béni. Ça veut dire quoi? Il est béni. C'est un bon juge. Faut pas le soupçonner. C'est un bon juge. Shein la fanaf lo avla velo shikra. Il n'y a pas des choses tordues chez lui. Il n'y a pas d'oubli. Donc, comme il n'y a pas d'oubli, tu as intérêt de faire beaucoup de mitzvot et ne crois pas que tes mitzvot vont être oubliés. Et ne fais pas des averot. Ne crois pas que que Dieu il va oublier d'Averot. Il ne va pas les oublier. Les mitzvot que tu fais, il ne va pas les oublier, il va tout compter. Velo masupanim, il n'y a pas de masupanim, ça veut dire de protectia, ça veut dire panim, le visage. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens qu'on respecte beaucoup, il y a des gens qu'on respecte moins. Il y a le pouvoir, il y a des gens qu'on a peur d'eux, il y a des gens qu'on n'a pas peur d'eux. Donc, un juge qui juge aujourd'hui, il a deux personnes devant lui, il ne va pas juger le pauvre comme il juge le riche. Eh bien, un homme qui a du pouvoir, qu'on a peur de lui, on le juge d'une manière. Et l'autre qui n'a pas de pouvoir, on juge autrement. C'est ça qu'on appelle masupanim. Eh bien, la tide la vaut, il n'y a pas de masupanim. Ils s'en fichent. Tu es mechoubad, tu n'es pas mechoubad. C'est, il n'y a pas ça, il n'y a pas de protectia. Velome karchochat. Et il n'y a pas de pot de vin. On ne peut pas donner des pots de vin à Hachem. C'est-à-dire quoi, on ne peut pas donner des pots de vin à Hachem? Comment tu veux lui donner? Pourquoi? Quelqu'un peut s'imaginer donner des pots de vin? Pourquoi? Pas donner de l'argent? Tu vas donner de l'argent à Hachem pour qu'il te favorise? Et comment? Ça peut monter à l'esprit qu'un homme il peut donner des chochats à Hachem. Où est la caisse d'Hachem que je peux mettre de l'argent dedans? Dans l'autre monde. Pourquoi? Parce que dans l'autre monde, tu pars avec de l'argent. Et on peut donner des chochats que ce qu'on amène dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'on amène dans l'autre monde? Des mitzvot. On peut faire peut-être des chochats avec des mitzvot. Ça veut dire quoi? Je viendrai chez Hachem. Hachem, il va juger. Si Hachem, il va avoir une avéra, je vais lui donner des mitzvot. Je dirais, beaucoup regarde, j'ai ici une mitzvah, tu vois, je t'amène beaucoup de mitzvot. J'ai fait beaucoup de bonnes choses. Alors tu oublies mes avérot. Non, ça ne marche non plus. Même avec des mitzvot. Tu ne peux pas avec la mitzvah dire qu'Hachem ne compte pas la avéra. Mais c'est marqué que la mitzvah peut protéger. Mais la mitzvah ne peut protéger que partiellement, dans le sens où si l'homme y fait teshuva sur ses avérot, les avérot sont effacées. Mais pas toujours le teshuva, elle est parfaite. Ou même si elle est parfaite, il y a des avérot qui exige des souffrances. Il y a des grandes avérotes, il écrit tout au mitot bedin, ou des chilou l'Hachem, malheureusement, il faut des yisourim. Ces yisourim, en effet, on peut les diminuer, on peut les éliminer avec des mitzvot. Mitzvot ou maasim tovim, ils peuvent être à la place des yisourim, mais il faut la teshuva. Mais s'il n'y a pas la teshuva, faire amener une mitzvah pour effacer la vera, ça ne marche pas. Ça, c'est du shochat, ça ne marche pas. Et il y a aussi une autre sorte de shochat avec la chose elle-même, la mitzvah la vera elle-même, c'est-à-dire, déjà un homme, il a volé. Alors, il se dit, il est interdit de voler. Et je fais quoi? Peut-être Hachem, il va m'accuser que j'ai volé. Eh bien, la moitié de ce que j'ai volé, je donnerai tzedaka. Et comme ça, vous me dire pourquoi tu as volé? Je veux lui dire, mais tu vois, je t'ai volé, je t'ai donné à toi la moitié, je te fais pour la mitzvah. J'ai soutenu la Torah, j'ai investi chez les pauvres, j'ai sauvé plein de choses. Et c'est vrai, et il a fait avec son argent des bonnes choses. Ça y est, tu ne peux pas m'accuser. Non, ça ne marche non plus. Ça, c'est aussi du shochat, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent, alors je vais donner 90% de ça. Alors, j'ai volé 1 million. S'il faut donner ma aser, je donne ma aser. Si le rabbin me dit qu'il faut donner 2 fois, je donnerai 2 fois. Si le rabbin il dit me donner 9 dixièmes, je donnerai 9 dixièmes. Mais il me reste 1 dixième. Même ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est velomi kar shochat. Il ne prend pas du shochat. Chaque kol shelo, parce que tout est à lui. Tu donnes du shochat avec quoi? Avec de l'argent, mais cet argent appartient à Hachem. Tu n'as rien donné de toi-même. Veda, et il faut savoir. Tout y marche selon le cheshbon. Cheshbon, on fait un calcul. Calculer, ça veut dire que tout est compté. Chaque mitzvah est compté. Une grande mitzvah, une petite mitzvah. Un cheshbon, 1000 euros, 900 euros, 1 euro, 10 centimes, chaque chose est comptée. Chaque avéra, chaque mitzvah, tout est compté. Valiftecha chayitzrech hachachol bet manusloch. Et que ton Yetzer Hara ne vient pas te promettre de rassurer Sha'ol kelatom bet manoslor. C'est une maison où on peut fuir. Un homme, il veut dire, bon, il va faire des averot. Ça passe ou ça casse? Si ça casse, eh ben, à la fin, je vais mourir et tout est terminé. Ou peut-être l'homme, il va dire, il va se suicider peut-être. Si ça tourne par an, eh ben, il reste toujours la possibilité de se suicider. Ça veut dire, une fois qu'il est mort, il n'y a plus de souffrance. L'homme ne souffre plus. C'est comme ça que toi, tu penses. Non, ça ne marche pas. Sheol, ce n'est pas Beit Manoslach. Ce n'est pas une maison pour fuir. Parce que là-bas aussi, à Kadesh Baruch Hu, il t'attend en tournant. Kalkoracha Tanotzar, tu es créé contre ton gré. Ça veut dire quoi? L'homme, il est créé contre son gré. Avant qu'Hachem y crée l'homme, sa neshama, elle est au Kisi Akavod. Et là-bas, c'est un Gan Eden, c'est un plaisir extraordinaire. Et quand Kadesh Baruch Hu dit à une neshama, viens-toi, je vais t'envoyer dans le monde. La neshama, il dit, mais pourquoi? Mais c'est bien ici. À côté de toi, tout est bien, mais c'est merveilleux ici. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais moi je veux que tu viennes sur terre. On me dit, mais moi je ne veux pas venir, il y a un tel plaisir ici. Akadosh Baruch Hu dit, je t'oblige. Tu m'obliges? Oui, je t'oblige. Pourquoi tu m'obliges? Parce que je veux comme ça. Je veux que tu viennes sur terre. Mais tu vas me priver de tout ce plaisir. Mais Hachem, il dit, c'est encore mieux en bas. Pourquoi c'est mieux en bas? Mais c'est l'obscurité ici. Oui, mais je t'envoie pour faire des mitzvot. Je t'envoie pour te donner encore une meilleure condition. La première condition, comme il dit l'expression du Zohar, c'est Naam Diksoufa, c'est le pain de la honte, de recevoir un cadeau sans l'avoir mérité. C'est bien d'un cadeau, mais le fait qu'on n'a pas mérité, ça brûle comme le feu. Eh bien, tu veux le mériter? Oui, je veux le mériter. Eh bien, tu vas. Si l'homme dit, je ne veux pas aller, eh bien, je t'oblige. Al-Korat Anotzar, tu es créé contre ton gré, Al-Korat Anolad est contre ton gré, tu es né. Tu es né sur terre, même si tu ne veux pas. Al-Korat Achai, et tu vis contre ton gré. Un homme qui ne veut pas vivre, il ne peut rien faire, il vit. Al-Korat Amet, et quand l'homme il meurt, il dit, je ne veux pas mourir, on ne peut rien faire, on meurt quand même. Tout ça, ça ne dépend pas de l'homme. Et contre ton gré, tu donneras din cheshbon devant Melech, le roi, Malche Hamlachim, le roi qui fait régner des rois, Kadesh Baruch Hu, mais il est saint et il est béni et il va faire des choses justes, il fait que des choses bien. Ne crois pas qu'il y a des choses tordues. Et s'il est marqué din ve cheshbon, je ne me rappelle pas si on a parlé le mot de din ve cheshbon, il y a deux choses. Il y a la chose elle-même et après la comparaison avec d'autres choses. Est-ce qu'il a fait une mitzvah? Est-ce qu'il a fait une avira? S'il a fait une avira où il a manqué une mitzvah, un homme qui dit, je ne fais pas cette mitzvah. Pourquoi? Parce que je ne peux pas la faire. Ça coûte trop cher cette mitzvah. On fait d'abord un din, tu as raté la mitzvah. Mais l'homme, il a une excuse. Je n'avais pas assez d'argent pour cette mitzvah. Alors on fait un cheshbon. Un cheshbon, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Pour d'autres choses, tu avais 8 l'argent. C'est que pour la mitzvah, tu n'avais pas d'argent. L'homme, il dit, je ne pouvais pas étudier, j'étais fatigué. Alors, après, il donne une excuse. Mais j'étais fatigué. On fait un cheshbon. Pour d'autres choses, tu n'étais pas fatigué. Il y a toutes sortes de cheshbonot dans le din de cheshbon. Et tu le donnes devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il est saint. Il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose de mal. Il n'y a rien de mal. Baruch Hu, il est béni. Il va te juger bien. Mais tu es obligé de passer. Et ce sont des choses qu'il faut connaître. Il faut savoir. Il faut faire connaître aux autres. On va commencer le cinquième perek. Le cinquième perek, il est différent de tous les prakim. Ici, il n'y a pas de chachamim qui parlent. Ce chacham qui répète ça toute sa vie. Et qu'en effet, c'est l'ensemble des chachamim. Ce sont des klalim que tous les juifs doivent savoir. Asaram ha'amarot nivra ha'olam. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Il est marqué dans la Torah, dans Parashat Bereshit, « Voyomer elekim yor » Dieu il a dit que la lumière sera. « Voyomer elekim tachiares deshe »« Voyomer elekim yirakia »« Yirakia yimorot » Hachem, il a créé les choses pendant les six jours de la création. Alors, il est marqué 10 fois que Dieu il a parlé. Bereshit bara Elohim, ça c'est une parole. Après, 9 fois, Vayomer. Donc, il y a 10 paroles avec lesquelles Akel Bokhin a créé. Va'al Obama, Marechad Yachol Hibarot. En vérité, le monde aurait pu être créé avec un Mahamar, avec une parole. Ça veut dire comment? Il aurait pu dire Vayomer Elohim, Yehi Or, Yehi Tatcha Ares Deshe, Yehi Betochamayim, Tatcha Ares Deshe, Yehi Kochavim, Yishretsu Hamayim, Eser Adam. Voilà, dans une phrase, ou deux ou trois phrases, sans répéter le mot Vayomer. Faire créer toute la création dans le même Amar, dans la même parole. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait comme ça? Alors, la Mishnah nous dit, c'est quoi la réponse? L'ipara min ha-resha'im shema'abdim et ha'olam shenivra basaram amarot. C'est afin de encaisser chez les resha'im qui font perdre un monde qui est écrit avec 10 ma'amarot. V'liten sachar tov la tzadikim shema'abdim et ha'olam shenivra basaram amarot. Qui a donné une bonne récompense pour les tzadikim et grâce à eux, mon tien, qui est écrit avec 10 ma'amarot. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous enseigner? Créer un monde avec un Mahamar ou avec 10 Mahamar, ça change quoi? Ça change qu'on voit dans 10 Mahamarot qu'Hachem il donne plus d'importance. Avec 10 paroles, le monde il est plus important qu'avec un Mahamar. 10 paroles plus. Pourquoi? En quoi c'est plus? Ça veut dire, si HaKadosh Baruch Hu, il avait créé avec un Mahamar, donc ça aurait été, tous les développements du monde auraient été appris automatiques. Comme par exemple, le Mahamar, Tachiares Deshe, que les arbres poussent des fruits, Esef Mazri Azera, et que les fruits vont fabriquer des graines, et les graines Zera qui vont se reproduire. Dans ce Mahamar, HaKadosh Baruch Hu, il a créé une puissance d'un éternel renouvellement et recréation. Ça veut dire, il a créé le premier arbre, il lui a dit, tu as fabriqué des graines, ils peuvent se reproduire. Donc, les graines dans la pomme vont tomber par terre, ils vont fabriquer des nouveaux arbres. Ces arbres vont fabriquer des fruits, les fruits, il y aura des graines, les graines, ils vont tomber par terre, il y a de nouveaux arbres, etc., etc. Ça veut dire, il y a un mécanisme. Il a créé le mécanisme de la nature et ce Mahamar reste maintenant éternel. Il faut tout le temps renouveler le chidouche d'électricité, mais l'appareil il a créé, comme quelqu'un a un mixeur. Il faut après de l'électricité qui rentre. Alors ça c'est une chéla. Est-ce que l'électricité, Hachem il a mis une fois dedans, Beshad Briat Olam, ou est-ce qu'il faut encore un vecteur dans chaque seconde? Ça c'est un chakira. Mais en tout cas, la machine, telle qu'elle est, elle est créée, elle va, elle avance telle qu'Hachem l'a fait. Très bien. Maintenant, HaKadosh Baruch Hu, il aurait pu créer un Mahamar, une machine, que toute la création, les étoiles et les animaux et les fruits, tout ça, c'est depuis le début un logiciel, un ADN logiciel qui automatiquement va se développer comme ça. Même si ça dure 7 jours. Hachem voulait créer le monde pendant 6 jours. Mais même Mahamar Echad, il aurait pu créer dans 6 jours. Ça veut dire, ça se déclenche le demain et après-demain, comme chaque chose, quand il y a un arbre qui pousse, il y a l'hiver, après il arrive le printemps. À chaque moment, il y a d'abord ça dort et après à un moment, ça a plus chaleur, ça commence à pousser des fleurs. On attend un petit peu et après il pousse le bourgeon, ça bourgeonne et après il y a le fruit, etc. Chaque chose, il a un temps où ça se développe. Donc, les 6 jours de la création, à HaKadosh Baruch Hu, il aurait pu créer un appareil, un Mahamar, où ils mettent un logiciel dedans, et après, le deuxième jour, ça se développe comme ça, le troisième comme ça, le quatrième comme ça. Mais Hachem, il n'a pas fait comme ça. Il a créé le premier jour, il a créé Shemaï Vaharetz, il a créé en théorie, comme Rashi raconte, toute la Bria a été créée le premier jour. Mais le deuxième jour, et le troisième jour, le quatrième jour, ça ne s'est pas développé tout seul. Il y avait une nouvelle intervention. HaKadosh Baruch Hu, il est venu, Et il a dit, maintenant terre, maintenant tu vas faire pousser. Bien que la graine était déjà depuis le premier jour dans la terre, Agrippa dit, maintenant graine, je t'ordonne, tu commences à pousser. Il a commencé à pousser. Et le quatrième jour, il dit, maintenant je vais accrocher le soleil. Le soleil était créé déjà depuis le premier jour, maintenant je t'accroche. Alors qu'est-ce que ça change? En fin de compte, un Mahamar, un logiciel que automatiquement avec une minuterie va développer pendant les 6 jours de la création, ou non, c'est pas une minuterie qui va automatiquement, il y a une intervention. Ça montre la chiba, ça montre que c'est précieux, qu'Hachem il a un intérêt. À quoi ça ressemble? Imaginez-nous, quelqu'un fait un mariage, il invite les gens. Alors qu'est-ce qu'il fait le père de la Khatan, le père de la Kala? Il passe chez toutes les tables et il leur dit, vous avez tout ce que vous avez besoin. Eh bien, voilà, vous avez ici le serviteur, ce qui vous sert. Vous avez un problème, vous le demandez à lui. Voilà, j'ai donné l'ordre qu'on vous sert un plat après l'autre, que vous sert des serviettes. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Très bien. Ou il le dit à l'entrée de la salle. Dès que les gens y rentrent, il leur dit, tout est préparé, vous installez ici, et tout, c'est automatique, tout va bien. Mais il y a peut-être un autre père de Khatan Kala. Ils vont 6 fois chez chaque table. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Voilà, je vous apporte ça. Il intervient. Plus que le Baalabaït, il intervient encore une fois pour régler les choses ou lui, personnellement, il dit, voilà, maintenant on va vous apporter ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit, il est invité? Il s'intéresserait moi. Il s'intéresse. C'est pas automatique tout au début. Et chaque fois, il intervient. Donc, la création du monde a été créée avec Asrama Amarot. Il a donné à chaque déclenchement d'une nouvelle phase de la création, il y a une nouvelle occupation. Et Dieu, il s'occupait encore une fois avec le monde pour la parfaire, pour la perfectionner. Alors tout ça, pourquoi la Torah nous raconte ça? Ça nous sert à, ça nous amène à quoi? Ça nous amène, pourquoi nous sommes obligés de le savoir? Afin que tu saches que le tzaddik, il fait des mitzvot, il est en train de faire que le monde tient, et le monde, c'est quelque chose de précieux. Le monde, c'est précieux. Donc les mitzvot qui sont mekayimim, ils sont très précieuses, ils font un immense effet. Et là, avec Rodereshaim, les Rechaim, ils détruisent le monde. Ils détruisent quelque chose d'important ou quelque chose de pas important. Ils détruisent quelque chose qui est important. Donc, si on détruit quelque chose qui est important, la punition, elle est plus grande. Si quelqu'un, il vient, il a une vieille voiture de 10 ans, elle a fait 300 km, et le prix, il est 1 500 euros. Et il vient, il casse. Eh bien, il paiera 1 500. Et si tu as un nouveau Maserati tout neuf et il le casse, eh bien, tu paieras 1 million. Mais c'est beaucoup plus cher. Le monde, casser ce monde ou me cayenne le monde, il faut que chacun y sait qu'il s'agit de quelque chose de très précieux. Les hippara, ce n'est pas qu'Akadébo il veut punir le rachat. Ce qu'Akadébo il veut punir l'État, il veut bénéficier les tzadikim et recommencer les tzadikim. Pour que les tzadikim, ils ont beaucoup de récompenses, il a créé un monde compliqué. Mais il faut le savoir que le monde, il est perfectionné, il est très cher chez Akadosh Baruch Hu. Comme c'est très cher, sache que la récompense ou le contraire est très cher. Et ça, c'est important à savoir pour que les gens fassent attention de ce qu'ils font dans ce monde. Asara Dorot Mi'Adam Ad Noach. Il y a 10 générations depuis Adam jusqu'à Noir. Noir, c'est la 10e génération. Pourquoi la Torah nous raconte les 10 générations, ça durait combien? Ça durait 1 600 ans. 1 600 ans, à la fin, le Maboulé est venu. Pourquoi la Torah nous raconte qu'il y avait 10 générations, il n'y avait pas 2, 3, 4 générations, 1 600 ans, pour nous apprendre Kama Erech Abaim Lefanav. Combien de patience, Hachem, il a. Boim. Toutes ces générations, ils étaient machisines, ils énervaient Hachem. Comment ils énervaient? Adam Arishon, il a fauté. Après Caïn, il a fait l'assassinat. Son fils Enoch, ils ont commencé à Bodhazara. Après, il a marqué d'autres choses. Et après, c'était l'immoralité. Il n'a pas amené le Maboul qu'après 10 générations. Il y a 1600 ans de patience chez Hachem, et après, il a apporté le Maboul. Donc, il est important à savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est passé. Et pourquoi j'ai besoin de savoir ça? C'est pour notre génération aussi. Si dans notre génération, tu vois qu'il y a des gens qui vivent bien, et tu dis, s'ils vivent bien, c'est que Dieu, il est content d'eux. Et tu regardes dans la Torah, et tu dis, mais ça ne correspond pas à ce que la Torah dit. La Torah, elle a dit, on n'a pas le droit de faire ses péchés. Et si on fait ses péchés, il y a un risque de s'énerver. Mais moi, je ne vois pas qu'Hachem s'énerve. Moi, je vois que ces gens-là, ils vivent bien. Alors donc quoi? Alors donc la Torah n'est pas vraie. La Torah, elle a promis des catastrophes. Mais ce n'est pas vrai. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Comme ça, tu vas imaginer. Mais non, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait 1600 ans de péché. Hachem n'a pas détruit le monde. À la fin, il a vu détruit. C'est Hachem, il profite d'un crédit. Hachem, il a la patience. Il espère que les gens ils vont faire teshuva. Mais si on ne fait pas teshuva, et à un moment, c'est terminé. 10 générations. Le chiffre 10 signifie quelque chose. Déjà, la première Mishnah nous a parlé du 10. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Maintenant, on nous dit 10 générations jusqu'à la destruction. C'est quoi? C'est un jeu de mots? 10. Non, c'est pas un jeu de mots. On verra. Tout ça, c'est lié. Il y a un chiffre 10 chez Dieu. Je crée avec 10 paroles le monde. C'est 10 perfections. Le monde, elle est merveilleuse avec 10. Et 10 générations, c'est une unité de valeur, 10 générations de patience. Après, je suis obligé d'intervenir. Je ne peux pas laisser éternellement. Après, Asara Dorot Minoach ad Avraham. Il y a 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. L'Odia Kama Erech Apaim Lefanaf. Encore une fois, ça nous apprend la grande patience de Dieu. Shekola Dorot Oyom Achisin Ubaim. Parce que toutes ces générations, ils énervaient Dieu. Acheba Abraham, le Kibel Alav Zechar Kulam, jusqu'à venir Abraham Avinu, il a encaissé le salaire de toutes ces générations. Alors, où il est marqué dans la Torah que les 10 générations, depuis Noir jusqu'à Abraham, ils ont fauté? Est-ce que c'est marqué dans la Torah? Vis-à-vis des générations que de Maboul, il est marqué dans la Torah. La Torah ne dit à Kéloridia Noir, je ne peux pas, c'est les gens, ils pêchent trop. C'est insupportable. Je vais faire le Maboul. 120 ans avant le Maboul, il a dit à Noach, je ne vais pas éternellement de laisser cette situation. Je donne encore 120 ans et après, si on ne fait pas de Tchouba, je détruis. Donc la Torah ne dit me fourrage que le monde a fauté. Mais pour Abraham Avinu, est-ce qu'il est marqué que les 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham, ils ont fauté? Alors la vérité, c'est marqué dans l'histoire de la construction du tour de Babel. Le monde entier, Safaïcha du Dvarim Achadim, et ils ont fait une rébellion contre Hachem. Cette rébellion était la 10e génération. C'était la génération d'Abraham Avinu. Quelle année c'était exactement? J'ai fait le calcul. Avec le Pelek qui est venu Flega Haaretz, à l'époque de Pelek, quand Pelek il est mort, Niflega Haaretz, le monde a été divisé en 70 langues. Et le calcul fait de Rashi que Niflega, le monde a été divisé, c'est-à-dire Shambalal, Hashem et Kola Haaretz, l'histoire du tour de Babel, c'était la 48e année d'Abraham Avinu. Comme ça, c'est moukhar dans les psukim. 48e année. Alors, si c'est la 48e année d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé 48e année d'Abraham, comme il dit le Rambam, le Medrash, qu'Abraham, il a commencé à prêcher le Avodat Hashem devant tout le monde. Il a commencé à Tanefesh Asharasu Becharan. Ça veut dire quoi? Il y avait ici, Hashem, il a laissé 10 générations et après venu Abraham. Si Abraham ne serait pas venu, alors ce sera grave. Alors le Ramchal, dans Der Hashem, il explique que les 10 générations, Ce n'est pas un hasard. Il a laissé un ton. Au début, depuis Adam, il a dit, je laisse 10 générations, on verra qu'est-ce que ça donne. S'ils sont tzadikim, très bien. S'ils sont rechaïm, après 10 générations, j'enlève. Plus que 10, je ne peux pas. Mais je ne vais pas détruire le monde. S'il y en a un qui est tzadik, je continuerai avec lui. Donc ça, c'était l'histoire de Noé. Noé était le 10e. Depuis Noé jusqu'à Abraham, en vérité, c'est le fils de Noé jusqu'à Abraham, il y a 10 générations. À Hachem, il a dit, je laisse encore 10 générations, mais il faut que maintenant, vraiment, il trouve, il faut qu'il y ait un homme qui trouve la solution pour sauver le monde entier. Noé n'a pas sauvé le monde. Noé, il a sauvé sa famille, mais il n'a pas influencé beaucoup le monde. Il n'était pas allé conquérir le monde. Le monde était obligé d'être détruit. Hachem, il a dit, il me faut un homme, un tzaddik, que je peux attacher à lui un peuple tzaddikim. Un homme qui est capable d'influencer que ses enfants sont tzaddikim et peut avoir une influence sur le monde. Il me faut trouver cet homme. Et je laisse la chance 10 générations. Maintenant, pendant ces 10 générations, chacun, il aurait pu trouver ce qu'Abraham, il a trouvé. C'est chacun. Et Abraham, il a trouvé. Dès qu'Abraham, il a trouvé, 10 générations, c'était au moment où il y avait la plus grande rébellion du monde. Quand il y avait cette rébellion, eh bien, Abraham Avinu, il est venu. Maintenant, dans quel sens ça va? Est-ce que parce qu'il y avait une rébellion, Abraham Avinu, il est venu, ou parce qu'Abraham, il est venu, c'est pour ça qu'il y avait la rébellion? Ben, de Chazal, Mashma, c'est parce qu'Abraham Avinu, il est venu, c'est pour ça qu'il y avait la rébellion. Les gens, ils avaient peur, Nimrod, lui, il a organisé le tour de Babel. Déjà, Abraham, il était jeune, il lui a échappé, il avait eu une grande discussion avec Nimrod, et jusqu'à la fin, il a vu qu'il n'arrive pas à gagner contre Abraham par des arguments. Les gens, ils vont courir derrière les arguments d'Abraham. Alors, il a jeté dans la fournaise. Abraham, il est sorti vivant, il s'est sauvé. Et à ce moment-là, Nimrod, il a dit, il faut que je réunis le monde entier pour que, chas v'shalom, les gens ne vont pas suivre Abraham. Chez Abraham, un homme qui croit à un Dieu et qui croit à une religion, qui croit à du moussard, il croit que l'homme n'a pas le droit de tuer et il doit respecter au moins les shemitzvot. Lui, Nimrod. Ou Nimrod, Gibor Tzaït. Que Gibor Tzaït, il voulait Nimrod. Nous allons nous rebeller contre Hachem. Donc, il a toute l'histoire était pour faire toute l'histoire du tour de Babel. Nimrod, nous allons nous rebeller contre Hachem afin de couper court devant les agitations d'Abraham. Et donc, ça, c'est Kola Dorota. Nimrod n'aurait pas pu créer, prendre le monde entier contre Abraham et contre Hachem, Dvarim Achadim. Kola Aretz Dvarim Achadim. Là, on a dit Achadim contre les deux un. Achad, c'est un. Achadim, c'est 2 fois 1. Il y en a un au ciel, il y en a un sur terre. Le un au ciel, c'est Hachem. Le un sur terre, c'est Abraham. Contre ces deux, nous devons lutter. Et si Nimrod il a réussi d'entraîner le monde entier, c'est que quoi? C'est que les Asara de Roth, ils étaient machrisin ou ba'im. Ils ne faisaient pas les mitzvot d'Hachem. Sauf des individus, il y avait des Shem, il y avait des Hever, il y avait des quelques individus. Ils gardaient la Emouna, mais pas dans la puissance d'Abraham. Donc, jusqu'il est venu, Abraham. Une fois qu'Abraham est venu, comme dit le Ramchal, il a fermé le temps de Er-Rapaïm. Maintenant, c'est Abraham, il a trouvé. Ça y est, je fixe mon brit, mon alliance avec lui, et je lui promets de lui va sortir après le peuple juif. Là, c'était destiné. L'Odi a maintenant, il y a un deuxième enseignement de Er-Rapaïm. Nous avons donc 2 fois l'enseignement d'Er-Rapaïm. Un Er-Rapaïm, il a terminé malheureusement, tragiquement. Nous avons un autre Er-Rapaïm, que tout est bien, qui finit bien. Que tout le Gan Eden qui était destiné pour toute la génération, Abraham Avinu il l'a reçu. Et bah, Abraham Avinu et Kibel Alaf Schar Kulam, ce que le bien qui était destiné au monde, c'est lui qui a reçu. Ça veut dire quoi que lui qui a reçu? Il n'a pas reçu seulement la Gan Eden, il a reçu le pouvoir d'arranger le monde entier. Ça veut dire Abraham Avinu il a reçu Sechar. Sechar a 2 sens. On a déjà parlé. Sechar veut dire récompense. Mais Sachar veut dire un outil. Un outil comme Imerhukotai Terechu, que si vous faites les mitzvot, je vous donne de l'argent, je vous donne la santé, des outils pour pouvoir faire des mitzvot. Et qui me l'a Sachar, Kulam, et Avram Avinu a reçu des outils, un Sachar, une récompense, un cadeau, Kulam, de pouvoir arranger le monde entier. Ça veut dire Avram Avinu a un courage de donner Emouna à l'humanité entière. Donc, pour ça, il a reçu le clan d'Israël. Il a reçu aussi Yitzhak et Yaakov et sa fille Ishmael. Et le monde entier est influencé par la Emouna d'Avram Avinu. La Emouna d'Avram Avinu, il a créé, après les 6 enfants qu'il a encore, qu'ils ont influencé le monde entier. Avram, il est quoi? Avram, il est tous les guérim qui deviennent un juif. Aussi, c'est Avram, il est fabriqué, et même pas les guérim. Même le Sheva Mitzvot Bnei Noach, Avram a reçu une puissance de les faire avancer dans le monde. Ça, c'est Kibbutz Alaf Sechar Kulam. Bon, Ezrat Hashem, demain.